Vous écoutez Radio Bonheur, le magazine des déchaînés du football. C'est maintenant, comme tous les lundis soirs, de 19h à 20h30. Pendant une heure et demie, on parle foot. On parle foot avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Avec Gaëtan Pinel, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Sébastien est avec nous, mais on ne l'entend pas ce soir. Sébastien, il est dans la régie vidéo pour que vous puissiez voir les images sur la page Facebook des déchaînés du football, pour voir les images de ce magazine en direct avec nous de 19h
à 20h30.
Il fait la tête Sébastien. Pourquoi
oui.
Il fait la tête
oui, il chafouin avec ses guingampés.
Bon, un week-end moyen pour les Guingampais, 0-0 à domicile, pour ne pas dire décevant, voire très décevant, parce qu'on n'a vraiment pas vu grand-chose dans ce match. Et puis un week-end aussi moyen pour les Brestois, qui auraient certainement mérité mieux que cette défaite dans ce derby contre Rennes.
Oui, les Brestois qui auraient mérité mieux, notamment grâce à leur belle première mi-temps hier après-midi dans le derby. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Il y a eu des faits de jeu, des faits d'arbitrage. Il y a eu tout ce qui peut aussi alimenter, animer un derby, hein, parce que c'est aussi ça.
Il y a même eu un tout petit peu d'animation du public.
Du spectateur, exactement, puisqu'on a eu, ça on peut le dire parce que c'est pas dans le résumé. Pour le reste, on vous fera écouter le résumé dans un instant. Mais c'est vrai qu'en tout début de match, les supporters brestois sont venus derrière la tribune Quimper, celle qui est habituellement réservée justement aux supporters, aux COP, et ont craqué des fumigènes, des pétards derrière cette tribune, ont également chanté un petit peu pour encourager leur équipe, et ça leur a porté chance parce qu'ils ont marqué à ce moment-là les Brestois, qui il y a peut-être même eu l'égalisation avant que tout le monde ne soit reparti.
C'est possible, oui, mais d'ailleurs je me posais une question, est-ce que vous pensez qu'ils ont été au courant du but d'Honora?
Je pense quand même, parce que ça crie un petit peu dans le stade, on entend le staff, le peut-être même les journalistes, parce que finalement
ils ont entendu Monsieur Pinel,
ceux qui crient aussi dans ces moments-là. Donc je pense qu'ils ont, et puis le speaker, il annonce le but aussi, le
c'est
speaker.
Vrai aussi.
Donc normalement ils ont dû l'entendre, les supporters qui ont fait le déplacement pour ce derby. On va tout de suite écouter le résumé de ce match entre Brest et Rennes. C'était hier après-midi sur Radio Bonheur.
Et là, il y a un petit boulevard pour Perrault qui va peut-être pouvoir centrer en retrait. Il y a du monde avec Honora, l'arrêt de Salin dans un deuxième temps, la but de Franck Honora à la 4e minute. Le Stade Brestois qui ouvre le score par Franck Honora, qui avait déjà marqué au match aller, qui en deux temps a ajusté Romain Salin pour prendre les devants dans ce match. Brest attaque 2021 aussi fort que 2020, la phase retour aussi fort que la phase aller. Et Brest mène 1-0 face à Rennes. Provoquer, servir Martin Terrier dans la surface de réparation. Terrier, il y a du monde en retrait, le centre, l'égalisation immédiate. Benjamin Bourigeau à la 7e minute qui égalise pour le Stade Rennais dans cette rencontre. Eh bien, ça n'aura pas traîné 3 minutes après l'ouverture du score d'Honora. Oh, attention, il n'y a pas de hors-jeu là pour Mounier. Dans la surface, la frappe de Mounier, but dans la barre. La barre qui repousse la frappe de Mounier, c'est pas terminé avec c'est Salin cette fois qui s'interpose. Il revient à une position de hors-jeu, Monsieur Buquet. Fèvre, là, il n'y a pas de hors-jeu pour Franck Honora dans la surface de réparation. Retrait, Mounier. Mounier, quasi au point de pénalty, qui tente de se retourner, de frapper ensuite le poteau. Le poteau, mais c'est pas vrai pour Mounier, il n'est pas en réussite. Sur son pied gauche, le centre est bon, la tête, elle est détournée, c'est pas fini, c'est encore détourné par Salah. Grenier, la remise en une touche, il éclaircit le jeu, Clément Grenier, c'est indéniable, frappe de Kamavinga, et là finalement la petite manchette plus ou moins là, de l'Arseneur qui détourne ce ballon, on pensait qu'il allait la capter. Pénalty pour le Stade Rennais, le pied haut d'Honora qui a voulu dégager ce ballon devant Truffert et le pied haut sifflé. L'Arseneur sur sa ligne, Clément Grenier, c'est parti, c'est au milieu, c'est dedans, c'est 2-1 pour le Stade Rennais. Gauthier L'Arseneur qui avait plongé sur sa gauche. Le centre de Duvers, la tête de Mounier, la barre. C'était terminé au stade Francis Leblay, les Brestois qui entament la phase retour par une défaite dans le derby face au Rennais, défaite de buts à 1. Brest qui méritait pourtant bien mieux dans ce match et notamment avec une très belle première mi-temps, mais décidément les montants en ont décidé autrement.
Ouais, dur dur pour les Brestois et dur dur pour Mounier surtout hein. Trois barres, incroyable,
exactement,
dans
trois.
Un seul
alors,
match.
Il y a eu deux barres, un poteau, dont une barre qui était finalement en position de hors-jeu, puisque l'arbitre l'a signalé après. Mais exactement, donc ça fait énormément. C'est pour ça que celle hors-jeu, je l'ai quand même mise dans le résumé, parce que ça vient complètement
sur
illustrer
le, coup, on y a cru, ouais.
Le match des Brestois, le match de Mounier, qui, on le voyait à l'instant, Pierre, a tiré autant que les joueurs rennais tous
réunis.
Ensemble.
Ouais, c'est ça, parce que Mounier, il a tiré 7 fois au but. C'est autant que tous ses autres partenaires, parce qu'il y a eu 14 tirs pour Brest, 7 de Mounier et Rennes a tiré 7 fois au but. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment...
Il aurait dû avoir 2-1 pour Brest normalement.
Pour Mounier, ouais, ouais.
2-1
vrai.
Pour Mounier, ouais.
Ouais, mais le problème c'est que voilà, quand vous tapez la barre, le poteau, bah, ça prouve qu'il y a un tout petit brin de réussite qui a souvent quand même souri aux Brestois cette saison. C'était pas avec eux.
Bah là, ils ont tout ramassé en un seul match.
Ouais.
Hein,
ils les ont Brestois tout pris, qui... Ce sera d'ailleurs le thème un peu de la rubrique de demain côté Brest. On reviendra sur ces montants-là qui ont sauvé les Brestois plusieurs fois cette saison, 17 fois exactement, mais qui là ont changé de côté sur ce match face au stade Rennais. Il y a eu ces poteaux, ces barres, mais il y a eu aussi des pénaltys, ou plutôt un pénalty, alors qu'il y aurait peut-être dû en avoir un autre, sans doute même, parce qu'il y en a eu un pour Rennes en deuxième mi-temps, qui peut siffler, mais si on le siffle, il faut aussi siffler celui sur Steve Mounier, justement, encore lui, en première mi-temps. Pierre, vous avez vu aussi les images.
Ah oui, parce que, alors, effectivement, le contre-argument, c'est de dire que Salin avait le ballon, mais à l'opposé du ballon, il y a quand même Mounier qui est devant Truffaut faire sur toute l'action et qui alors je sais pas s'il pouvait prendre le ballon sur cette situation là mais oui, il y a une faute assez nette de Truffert.
Et je suis persuadé que c'est parce que Salin a pris le ballon que l'arbitre ne siffle pas. Enfin, je vois pas d'autre explication en fait possible pour ne pas siffler pénalty sur ce coup-là. On écoute donc l'entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dalloglio, qui exprime son mécontentement et ses interrogations par rapport à l'arbitrage.
Bah, la perception, c'est que on demande si de suite c'est. Enfin, bon, nous on a vu qu'il y avait faute et Monsieur Buquet est à côté, quoi. Donc lui, il a estimé qu'il n'y avait pas faute, mais on demande si ça a été checké par la VAR. On nous dit oui. Mais bon, après, il ne se passait absolument rien. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement. On a eu un moment de doute en disant, bah non, on a peut-être mal vu. Puis non, on avait bien vu. Plus que pénalty, certainement qu'il y a d'autres conséquences pour le joueur qui est un Rennais qui fait la faute. Donc, parce que l'arbitre a hésité là-dessus, il a dit, bon, voilà, on fait la mi-temps, on va rester là-dessus, c'est bien. C'est le stade Brestois, je ne sais pas, voilà. Parfois interrogatif.
Ouais, un peu injuste cette décision.
C'est vrai parce que Truffert a nil une occasion de but.
Oui, bah.
Donc ça peut être rouge.
C'est la discussion dans le sens où est-ce que Mounier peut avoir le ballon ? C'est ça le truc. C'est que si Mounier ne peut pas l'avoir, il a nil plus trop une occasion de but, mais la faute est quand même là.
Il y a quand même une
contact,
faute. Il y a une
VAR.
Enfin, je veux dire, la vidéo, elle est là.
Rouge, mais
il y a une faute et elle est dans la surface.
Et ce qui a agacé les Brestois, Aris Belkebla le disait aussi, c'est que finalement, l'arbitre n'a pas. Alors sans doute qu'on lui a parlé dans l'oreille, mais il n'a pas pris un temps, parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans la foulée, c'est la mi-temps qui a été sifflée ensuite. Il n'y a pas eu un temps de réflexion, de savoir est-ce que on
est-ce
va
qu'il y a
consulter
pénalty
ou pas.
On est dessus sur notre replay. La faute a lieu à 45 minutes et 44 secondes. Il y a 2 minutes de temps additionnel, donc il y a 1 minute 15 qui s'écoule avant la pause. Je suis persuadé, même si bon, il y a beaucoup de défauts dans cette assistance vidéo, je suis persuadé qu'ils l'ont revue et que s'il y avait eu pour eux erreur manifeste de Monsieur Buquet de ne pas l'avoir sifflé, il lui aurait dit.
Mais du coup, là, je comprends pas trop. Je comprends pas trop qu'il ne siffle pas. Oui, et en plus, que derrière, il siffle le pénalty pour Rennes en deuxième mi-temps.
Le pénalty,
il peut y être.
Souvent, il y a une compensation, d'ailleurs. C'est-à-dire, quand l'arbitre reconnaît, enfin, à demi-mot, qui s'est trompé sur une action précédente, sur une action similaire, il rétablit l'équilibre des choses.
Ce qui est pas toujours forcément bon non plus, parce que finalement, non, au lieu de commettre une erreur, il en commet deux.
Oui, oui, mais ça se compense. Donc en tout cas, là, c'était pas compréhensible qu'il ait sifflé pour Rennes ce pénalty, puisqu'il avait refusé quelques minutes auparavant de siffler pour les Brestois. Ouais.
On a dit les montants, on a dit les pénaltys, et le troisième fait qui est venu un petit peu contraster, ou en tout cas illustrer ce match entre Brest et Rennes, c'est l'égalisation sans doute trop rapide aussi du stade Rennes.
Relâchement
parce que,
un petit peu.
Ouais. Ouais, Brest n'a tenu que 3 minutes après l'ouverture du score précoce de Franco Nora à la 4ème. Problème, c'est qu'à la 7ème, il y avait déjà un partout but de Bourigeaud. On écoute l'entraîneur brestois qui revient eh bien, sur ce relâchement après le but.
Il faut être solide et dès qu'on met un but, il faut être solide dans les duels. Et là, on perd pratiquement 3 duels les uns après les autres. Et on n'est pas en marquage sur le centre, donc ça fait beaucoup. Et ça, c'est un manque de concentration qui nous a fait défaut aujourd'hui. Donc ça fait partie des détails qu'on a besoin de soigner.
Ouais, ça fait partie des détails à soigner au cœur d'une défense, on va le voir tout à l'heure, qui a bougé.
Pierre, oui, et c'est le scénario du match aller, finalement.
Exactement, ce qu'on disait, c'est Brest qui ouvre le score, c'est Honora qui ouvre le score, comme à l'aller. Et Brest qui... Rennes, plutôt, qui renverse la vapeur ensuite.
Ouais. Pierre Gabriel, il est à la rue, sur le but.
Oui, ouais, mais tous, hein, parce qu'il y a Lannes au départ, je pense qu'il doit même avoir Perrault au tout début de l'action sur le décalage. Il y a Lannes, il y a les deux centraux. Et il y a aussi Pierre Gabriel à l'arrivée. Le seul finalement qu'on peut pas incriminer sur le but, je pense, c'est Gauthier Larsonneur, oui, parce qu'il est un peu livré à lui-même sur cette situation-là. Mais là, on les voit, on revoit l'action là justement en même temps en studio, et il y a une passivité de la défense incontestable sur cette égalisation des
L'action de Rennes est sympa quand même.
L'action de Rennes est sympa, c'est vrai, mais il y a une passivité quand même du stade brestois au cœur d'une défense qui, on l'a dit, a encore bougé, parce que oui, Jean-Kévin Duvernay était titulaire contre le Paris Saint-Germain, il avait soufflé contre Nice, il a ressoufflé hier, et donc c'était à nouveau la charnière RL Chardonnay qui était alignée. Ça bouge beaucoup parce qu'on cherche aussi des repères au sein de cette équipe du stade brestois, et parce que bah, finalement c'est des joueurs qui semblent être tous un petit peu du même niveau. C'est ce qu'explique l'entraîneur d'Etizef, Olivier Dalloglio.
C'est les garçons qui sont proches les uns des autres. Je le répète souvent, j'ai 4 défenseurs centraux. Ils sont plutôt avec des différences, hein, parce qu'il y en a un qui est gaucher, droitier, l'autre qui monte plus haut, etc. Mais c'est des garçons qui se tiennent, qui travaillent bien. Moi, je vais les maintenir avec la concurrence pour qu'ils cherchent à s'améliorer.
Et oui, améliorer avec cette concurrence. Il disait 4 défenseurs centraux, justement. Avec Pierre, on les cherchait, évidemment. Il y a Chardonnay, RL Duverne. Le quatrième, c'est Lilian Brassier, qu'on connaît plus dans le rôle de latéral, parce c'est ce poste qu'il a occupé parfois à Rennes avec l'équipe réserve. À Valenciennes, en Ligue 2, c'est ce poste aussi l'année dernière qu'il occupait. Mais il peut jouer, effectivement, en tant que défenseur central.
Et puis, il y a Denis Bain, qui devrait bientôt revenir.
Et Denis Bain. Évidemment, rupture des ligaments croisés en juillet, je crois même.
Juillet.
Donc juillet, février normalement. Hein,
février, il devrait pas être loin de revenir, c'est vrai.
Voilà, peut-être mars pour être vraiment à un niveau
athlétique,
correct, ouais. Mais voilà, en tout cas, il devrait revenir dans le coup assez dans les semaines qui arrivent. Le défenseur Denis Bain du côté de Brest. 19h19, bientôt 20, un petit écran publicitaire, et puis on revient pour la suite de cette partie consacrée au derby entre Brest et Rennes.
Tu lui donnes quel âge à Mamini ?
Je sais pas, 2 ans ?
Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi.
Avec le réseau Mini-Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini-Service, des experts dédiés à votre Mini. Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr. Cuisine
Xina. Pour réaliser mon rêve de cuisine, il me faudrait un cadeau tombé du ciel. Ouh, il y a quelqu'un là-haut ?
Oui, Xina. En ce moment, chez Xina, on vous offre la TVA.
Xina. Oui, à vos rêves.
Voir conditions en magasin. Xina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année.
Jusqu'au 31 janvier, la Seat Ibiza Urban est à partir de 99 euros par mois. Sans engagement et sans apport. Sur des véhicules disponibles tout de suite. Rendez-vous vite chez votre distributeur Seat ou sur seat.fr.
Seat Ibiza Urban TSI 95 chevaux, location longue durée 37 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Offre sans engagement sous condition de reprise résiliable à tout moment, tout mois commencé est dû. Réservé aux particuliers sur le stock disponible jusqu'au 31 janvier et livraison avant le 31 mars 2021. Conditions sur seat.fr.
Tu connais un réseau de serrurerie agréée et des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
À Bressud.
Le bonheur plein sud.
Ouf, elle est fraîche.
Dis mon amour, si on installait un abri de piscine à Bressud, l'eau serait plus chaude, ça t'éviterait de nager en combinaison.
Mais qui va s'en occuper ?
T'inquiète, chez Abressud, ils s'occupent de tout, de la conception à la pose et tout ça sur mesure.
Ok, ok, j'enlève ma combi et on file chez Abressud.
Abressud.
Le bonheur plein sud.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, cette nouvelle voiture ?
Dernièrement, j'en profite pas beaucoup. Et elle me coûte quand même cher.
Vous savez, chez Groupama, rouler peu vous donne droit au tarif petit rouleur, sans compromis sur les garanties. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Ah, enfin une bonne nouvelle !
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ah, pas facile ce début d'année. Alors chez Feu Vert, pour bien démarrer 2021, on a une offre qui remonte le moral. Pour l'achat de deux pneus Nexen été ou 4 saisons, le deuxième est à moins 50%. Oui, moins 50%. Commencez l'année du bon pneu et à moitié prix, c'est ça la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voir sélection et conditions sur feuvert.fr.
Allez, retour des déchaînés du football en direct ce soir sur Radio Bonheur. 19h22, on le disait, donc des Brestois pas chanceux.
Non, malgré le fait qu'ils aient tenu la dragée haute à cette équipe rennaise, parce que le Stade Rennais, faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui était en Ligue des Champions cette saison, qui a fait une campagne catastrophique, mais qui depuis son aventure européenne...
Ça s'est placé, c'est gratuit, c'est...
Non mais disons que voilà, bon, c'était leur première aussi de leur histoire, hein, c'est pas facile, mais bon, il y a quand même eu un seul point.
Non, ouais, oui, c'était horrible, ils étaient pas au niveau. Pas,
voilà. Ils sont passés à côté, mais depuis qu'ils ont été éliminés, depuis qu'ils sont un petit peu libérés de ces matchs en semaine de Coupe d'Europe, et eh bien c'est 5 victoires et 2 matchs nuls. Le Stade Rennais qui est clairement de retour aux affaires en championnat et qui a donné aussi du fil à retordre dans le jeu à cette équipe brestoise qui a bien tenu, et justement les Brestois s'en sont sortis la tête haute lors de ce derby malgré la défaite comme au match aller.
On savait qu'ils avaient une grosse qualité technique, ils l'ont montré, c'est une équipe qui joue très bien, c'est une belle équipe qui est complète, qui a plus de matchs de Coupe d'Europe et donc qui a une certaine fraîcheur, une fraîcheur physique. Et techniquement, ouais, ils sont très à l'aise, notamment au milieu de terrain. Donc ils nous ont confisqué le ballon, mais avec nos moyens, on est arrivé quand même à pouvoir les contenir. Parce que de leur côté, bon, faut pas dire qu'il y ait des tonnes d'occasions non plus.
C'est sûr, hein, les occasions, elles étaient plutôt brestoises, hein, on l'a dit dans ce match.
Elles étaient plutôt brestoises, surtout en première mi-temps, d'ailleurs, ouais. même sur la fin de match, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, on voyait les tirs de Mounier.
Ah ouais, le
on
poteau encore en plus,
fin de match, hein, ouais. On a eu plusieurs, il y a eu une barre à nouveau en fin de match, il y a eu un double arrêt à un moment aussi de Romain Salin.
Après le but de Rennes, c'est 6 tirs à 1 pour Brest.
Ouais.
Donc on voit aussi les équipes européennes. Alors même si Rennes n'a pas été au niveau sur la Ligue des Champions, c'est quand même un club qui depuis 2-3 ans se bat régulièrement pour se qualifier en Coupe d'Europe. Les détails sont là.
Oui.
Voilà, en très peu d'occasions, savoir marquer, le penalty qui tombe de votre côté, pas de l'autre. C'est un peu d'expérience, de roublardise, d'efficacité, c'est un mélange de tout ça.
Oui, c'est ça, puis de talent aussi, parce que ça pousse l'adversaire souvent un petit peu dans ses derniers retranchements, t'as envie de dire. Donc, ça fait partie de ces équipes-là.
Et puis, il y a la jeunesse brestoise, hein, on le voit sur le premier but rennais. C'est vraiment typiquement une erreur de jeunesse. Même si Brest, on s'en rend compte depuis plusieurs mois, a pris le pli maintenant de la Ligue 1, voilà, elle n'a pas encore cette expérience que peut avoir les
Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvrent encore ce niveau, qui sont encore en phase d'apprentissage pour certains. Et des Brestois donc battus hier, c'est la deuxième défaite en 2020 en 3 matchs, une victoire.
Oui, c'est pas une bonne série là pour les Brestois.
C'est pas une bonne série, d'autant qu'il y avait eu une défaite aussi juste avant Noël à Lens. Question, messieurs, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour le Stade Brestois que de s'incliner à nouveau face au Stade Rennais?
Moi je pense qu'il faut attendre encore 2-3 matchs pour le voir. Parce que bon, Lens, on peut dire allez, c'est un accident. Paris, bon voilà. Rennes, ça s'est mal enclenché, mais c'est vrai. Peut-être que c'est des prémices d'une mauvaise série. Mais encore une fois, soyons vigilants. Il y a un match à Reims là, qui est quand même une équipe qui va pas très très bien non plus dans ce championnat. Donc si Brest arrive voilà, à se relancer à l'extérieur, je pense que allez, c'est bon, ça repartira. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de résultat sur les 2-3 matchs qui arrivent, on pourra peut-être douter.
Moi, je crois que c'est un concours de circonstances. Hein. Je pense qu'effectivement, les Brestois sont actuellement dans une mauvaise série. Mais c'est vraiment pas parce qu'ils jouent moins bien. Donc, quelque part, c'est pas trop inquiétant. Je pense effectivement...
Pour l'instant, c'est pas trop inquiétant.
Voilà. D'abord parce qu'ils avaient quand même une certaine marge, un certain coussin de sécurité, un certain matelas. Et puis ensuite, parce que bah, dans le jeu, on n'a pas vu les Brestois décliner à aucun moment, dans aucun match, même s'ils ont perdu. Donc voilà, comme après Marseille où on était peut-être un peu inquiet, au niveau du nombre de points pris dans ce championnat, mais je ne suis pas inquiet. Je pense que les Brestois vont gagner certainement alors le prochain match ou le match suivant, mais
c'est Reims et Metz, je crois.
Reims et Metz, ça m'étonnerait pas même qu'ils gagnent les deux. Ouais. Donc je suis très optimiste pour les Brestois.
Eh bien écoutez, Aris Belkebla qui vous rejoint, il est tout à fait de votre avis.
Si vraiment aujourd'hui on avait fait un non-match et que Rennes nous avait laminé, j'aurais dit que c'est un coup d'arrêt, mais on reste quand même sur des matchs plutôt cohérents. Maintenant les résultats sont pas en notre faveur, mais je pense que si on continue comme ça, les points vont arriver et les résultats vont aussi tourner en notre faveur.
Ouais, il y avait un ventilateur à côté.
Oui, parce qu'en fait, on n'était pas hier dans la zone de conférence de presse, comme il y avait de nombreux journalistes, pour respecter le fait qu'il y ait, parce qu'elle est assez petite, hein, la salle là-bas de conférence de presse, il ne faut pas plus de 10 personnes. Ouais. Et donc, du coup, on était dans la zone mixte, ce qui est habituellement la zone mixte, mais juste à côté, il y a le ventilateur et le bus, en plus, de l'équipe adverse. Donc, ça fait parfois un petit peu de bruit. C'était plus entendable, on va dire, quand Olivier Dalloglio était là. C'est pour ça qu'on a mis aussi qu'un petit son d'Aris Belkebla des Brest. Brestois donc battu hier 2-1, mais des Brestois qui restent dans des eaux plutôt tranquilles de ce championnat, 12e avec 26 points.
Oui, mais c'est tout là le gap qu'ils n'arrivent pas, la petite étape qu'ils n'arrivent pas à
grimper passer. Dans les 10 premiers, ça c'est plus compliqué pour Brest. Bon, en même temps, on ne leur demande pas non plus l'impossible aux Brestois. Mais bon, voilà, les prochains matchs, il faudra quand même une victoire assez vite pour Brest, pour se remettre psychologiquement aussi dans le coup. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match et sur cette défaite dans ce derby entre Brest et Rennes. On va parler de Lorient, enfin on aurait dû parler de Lorient, mais malheureusement...
C'est un peu plus court.
Il va y avoir un match capital hyper important pour les Merlus ce week-end. Les Merlus devaient jouer contre Dijon à domicile, victoire impérative. Ouais. Ils n'ont pas joué et du coup pas de points pour l'instant. C'est pas dramatique, même si quand même, avec la victoire de Nîmes, il se retrouve dernier et en plus dernier décroché. Hein.
Oui, parce qu'il y a 3 points de retard sur Nîmes qui est 18e, 5 sur Nantes maintenant qui est premier non relégable, 17e. Donc ça commence alors avec un match de retard bien sûr. Mais ouais, alors,
on va faire le point 17e.
C'est quand même compliqué.
17e Nantes avec 18 points. Donc pour l'instant, Nantes n'est pas encore dans la zone rouge ou orange.
Il y a 6 points.
Ça chauffe quand même.
Ouais, mais ils y vont. 18e Nîmes avec 15 points. Il y a quand même 3 points d'écart entre Nantes et Nîmes.
Je crois que Nantes, ils sont sur 11 matchs sans victoire. C'est leur pire série depuis qu'ils sont remontés en 2013.
Alors, c'est la pire série depuis, je crois, 2001. J'ai vu ça passer.
Ça va très mal à Nantes. Donc 17e Nantes, 18 points. 18e Nîmes, 15 points. 19e Dijon, 14 points. Et 20e Lanterne Rouge, Lorient. 12 points, c'est-à-dire qu'en cas de victoire contre Dijon, Lorient peut espérer accrocher Nîmes. Alors à la différence de but, Lorient est un peu meilleur, donc pourrait sortir de la zone rouge, mais il faut impérativement une victoire de Lorient. Si c'est Dijon qui gagne, c'est la cata, parce que là, ça voudrait dire que Lorient serait à 12 points, Nîmes serait juste devant, enfin 19e avec 3 points de plus, et Dijon surtout aurait 17 points, c'est-à-dire 5 points, c'est beaucoup, c'est énorme.
Est-ce qu'il faut voir surtout maintenant, parce que Lorient-Dijon, on ne sait pas quand ça va jouer. Le prochain, c'est Nîmes-Lorient, dimanche, normalement.
Donc là, il faut gagner.
Il faut gagner, et c'est normalement. On va être un petit peu conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, on l'a dit, 12 cas positifs à la Covid-19 la semaine dernière. C'est pour ça que Lorient n'a pas pu jouer contre Dijon. 12 cas, dont 11 parmi les 30 présentés à la Ligue de football professionnel. Ouais. En sachant qu'il en faut 20 de disponibles, en tout cas non touchés par la Covid-19. Ça faisait plus que 19 joueurs. Oui. Donc, pas de match contre Dijon.
Et plus qu'un seul gardien, d'ailleurs, il me semble.
Oui, parce que Paul Nardi était touché. Après, je sais pas pour ce qui est de Mathieu Dreyer, Martouche ou Kaliens. Je sais pas lesquels. Dardy, j'ai entendu ça, mais après, je n'en sais pas plus pour les autres, les remplaçants. Jusque-là, le centre de formation du FCL qui a également été temporairement fermé parce que 4 cas ont également été détectés dans le centre de formation du FC Lorient. Donc, et nos confrères du Telegram nous apprennent qu'il n'y avait que 12 joueurs de présents à l'entraînement aujourd'hui du côté des Merlus. Donc est-ce que le match
contre Nîmes, moi je suis un peu inquiet pour le Nîmes-Lorient,
pourra
aussi,
se tenir? Ce serait peut-être pas une bonne nouvelle qu'ils s'y tiennent parce que finalement
parce que Lorient
sera complètement hors de forme, ou en tout cas pas peut-être pas au complet.
Déplumé. Complètement déplumé.
Ouais. Face à des Nîmois qui ont en plus battu Marseille.
Et ben voilà, justement, comme Lorient n'a pas joué, on va s'intéresser à ce qui peut être le prochain adversaire de Lorient. C'est Nîmes donc qui a fait une superbe opération samedi au Vélodrome, et nous avons l'un de ceux qui suit avec le plus de passion et de ferveur ce club de Nîmes Olympique, c'est Romain Collet-Godin. Bonjour Romain.
Bonjour Pierre.
Bonjour, bonsoir.
Alors vous commentez tous les matchs du Nîmes Olympique chez nos amis de France Bleu dans le Sud. Comment ça se passe cette saison? On imagine que cette victoire à Marseille a été autant enthousiasmante qu'inattendue.
Oui, à la fin du match, j'avais quasiment perdu la voix. Donc c'était clairement pas quelque chose qui était coché, en tout cas les trois points qui étaient cochés dans les têtes des Nîmois. C'est vrai que ça a été une bouffée d'oxygène. Maintenant, pour résumer un petit peu la saison du Nîmes Olympique, les Crocodiles sont quand même dans une situation très compliquée. 13 défaites déjà en 20 matchs, comme Lorient d'ailleurs, mais avec une victoire de plus, avec celle de Marseille. Mais bon, vous l'avez dit, Dijon-Lorient a été reporté. Donc il y a eu des problèmes de blessures, beaucoup de cadres absents, des absences de longue date. Des joueurs qui sont pas forcément en accord avec, en tout cas depuis les dernières semaines ça va un peu mieux, mais pendant quelques mois les joueurs étaient pas totalement en accord avec le coach principal, donc beaucoup de soucis internes, et on espère évidemment du côté de Nîmes qu'il va y avoir le début d'une nouvelle aventure, mais comme vous l'avez dit Pierre, il y a quand même de fortes chances que malheureusement pour Nîmes que ce match de dimanche soit reporté.
Vous parliez, Romain, des désaccords qu'il y avait pu avoir entre l'entraîneur principal, Jérôme Arpinon, et quelques joueurs. Justement, il y a Pascal Planck et un autre adjoint qui sont arrivés aussi épauler l'entraîneur. C'était assez surprenant, ça, comme situation au cœur de l'hiver.
Alors, surprenant, oui et non. Surprenant, oui, quand on ne suit pas trop le club. Et surprenant, non. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était le souhait d'avoir un adjoint pour Jérôme Arpinon. On sait que le président de Nîmes est un très bon président au niveau de sa gestion, mais c'est un président qui est quand même très 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 proche de ses sous. Et du coup, il a attendu vraiment quasiment la catastrophe et la défaite face à Dijon fin décembre, juste avant Noël, pour dire « Ok, là, il y a vraiment le feu, il faut vraiment faire quelque chose. » Donc c'était un souhait de Jérôme Arpinon d'avoir un adjoint confirmé en début de saison. Bon, son souhait finalement a été réalisé à mi-saison.
C'est étonnant, à quel moment, Romain, ça s'est effondré du côté de Nîmes? Parce que quand on regarde le début de saison, bon, les six premières journées, il y a deux victoires, notamment celle qu'on avait vécue sur Radio Bonheur, le 4-0 contre Brest, il y avait eu deux nuls, deux défaites. À quel moment ça a commencé à vaciller? Parce que quand on regarde ensuite, sur les 14 derniers matchs, 42 points possibles, 7 points engrangés seulement par les Nîmois.
Ça a été juste après la victoire dans le derby à Montpellier. Ça a été la première victoire de Nîmes en Ligue 1 à Montpellier. Alors il y avait eu de mémoire 8 matchs, je crois, donc c'était pas non plus, mais bon, c'était quand même historique. Et derrière, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Enfin si, ce qui s'est passé, c'est que je vous dis, il y a certains joueurs, des cadres, qui étaient pas forcément d'accord pour que ce soit Jérôme Arpinon, l'entraîneur du Nîmes Olympique. Ils l'ont fait savoir. En tout cas, ils l'ont dit au président. Le président a dit non, moi j'ai très confiance en Jérôme Arpinon. Et donc moi, un des tournants pour l'instant de la saison, ça a été cette défaite face à Dijon le 23 décembre, alors que Nîmes menait 1-0 à domicile jusqu'à un quart d'heure de la fin. Et puis derrière, ils se sont complètement écroulés. Et là, je me suis dit à Noël, ça sent vraiment pas bon pour le coach. Et finalement, Noël est passé, la nouvelle année est passée. Premier match de la saison en 2011, 2021, pardon, une défaite 5-0 à Strasbourg. Là, j'ai dit ça y est, c'est la fin. Eh bien non, c'est pas la fin. Malgré l'arrivée de Pascal Planck, eh bien le coach a été conforté. Et là, avec cette victoire extraordinaire à Marseille samedi, ça lui a donné du crédit. Maintenant, à moins d'un cataclysme et une série, encore une fois, de 7-8 défaites, ou même peut-être un peu moins, je ne vois pas Jérôme Arpinon n'être plus l'entraîneur du Nîmes Olympique en fin de saison.
Eh bien, on suivra ça, on espère suivre ça dimanche, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques petites interrogations par rapport à la tenue du Nîmes-Lorient de dimanche. À bientôt, merci beaucoup Romain Collet-Gaudin.
Ben merci Pierre.
À bientôt autour d'une petite table du Sud-Ouest. Vous voyez de quoi je parle.
Oui. À avec Paris, plaisir. Exactement.
Ah, exactement.
On pourra remanger dans les restaurants.
Quand on pourra.
Les doigts pour nos amis restaurateurs.
On espère. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci encore.
À bientôt.
Bonne soirée.
Romain qui avait commenté Fiorentina Guingamp.
Ouais,
sur
c'est
Radio
ce qu'il m'a dit au téléphone juste avant de passer à l'antenne. Il m'a dit, vous vous souvenez, c'était il y a quoi, il y a 10 ans.
Six ans et demi.
6 ans et demi. Hein, j'ai déjà l'impression que c'était plus loin que
mon
ça.
Dieu.
Voilà.
Eh oui. Non, voilà, c'est ce qui est dommage. Alors, c'est vrai que cette pandémie et cette épidémie à Lorient, on souhaite d'abord un prompt rétablissement à tout le monde.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça arrive à un moment déterminant de la saison.
Je ne veux pas qu'ils jouent plutôt que d'avoir un effectif.
Ah oui. Voilà. Je crois qu'à partir de certains cas, pas forcément à 20, quand on a moins de 20 joueurs disponibles, je crois qu'à partir d'un certain cas, d'un certain nombre de cas, l'équipe, le club peut demander le report. Ensuite, c'est vu avec le club adverse,
c'est mieux,
la commission.
C'est plus juste.
Ça n'a pas trop de sens autrement.
Si on a la moitié de l'équipe qui n'est pas là, évidemment, le club peut jouer quand même. Mais voilà, surtout dans ces moments difficiles. Et surtout hyper important pour Lorient, il vaut mieux être à fond. Hein. Donc il vaut mieux reporter le match, je pense, effectivement, le week-end prochain pour Lorient. Même s'il y a peut-être des joueurs qui sont un peu mieux, vaut mieux encore les déclarer inaptes. Et puis être plein pot le jour où il faudra reprendre pour prendre des points. Surtout contre ces équipes-là.
Quand ce sera annoncé aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment. Il va y avoir des tests, évidemment, de fait, je pense, tous les jours. Reste à savoir. Combien de cas vont être annoncés à nouveau? Est-ce qu'il va y en avoir de moins? Comment que ça va se passer aussi? On reste un peu complètement même dans l'expectative pour l'instant.
Donc c'est pas sûr du tout, hein, ce match contre Nîmes le week-end prochain. Enfin, il se jouera, mais quand on ne sait pas.
Heureusement qu'on a les options annulation gratuite sur les billets de train, parce que vous dire là,
ça y va.
On souhaite en tout cas un prompt rétablissement à nos amis lorientais. Il est 19h38, on est pile à l'heure dans le conducteur, c'est assez extraordinaire. On va s'intéresser dans quelques instants au championnat national, parce qu'il y avait un derby qui promettait beaucoup, dont on attendait beaucoup, et qui n'a finalement pas donné grand chose.
Donc finalement, le Saint-Brieuc Concarneau qui a un petit peu déçu sur le match de vendredi soir en national, le premier match de la phase retour. On aura dans quelques instants avec nous Stéphane Le Mignon, l'entraîneur de Concarneau, et Maxime Dornano, l'entraîneur du Stade Briochin.
Vous écoutez Radio Bonheur à Brest sur 95.9.
100% chanson française. Radio Bonheur.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1. À Lorient sur 93.3. À Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.
Bye.
Messi, on a essayé de joindre l'entraîneur de Concarneau. Pour l'instant, je ne l'ai pas.
Un petit message pour le...
Attendez, on ne s'entend plus. Oui.
Oui, on va lui envoyer un petit message pour le prévenir, notre ami Stéphane.
Oui,
Le
ça
Mignon.
Traîne un peu, hein, désolé, mais voilà, on est en direct et on n'arrive pas à joindre les personnes que nous devions appeler ce soir.
Il est pourtant au courant, parce qu'on est même passé par le service communication de l'US Concarneau qui nous a confirmé l'accord et puis la volonté de Stéphane Le Mignon de participer à cette émission, à cette interview. En tout cas, ça nous donne l'occasion, Pierre, de revenir un petit instant sur ce derby, ce match nul 0-0 dont on attendait beaucoup plus, parce que 0-0 c'était déjà le score du match aller. Oui. C'était déjà le score du dernier Saint-Brieuc Concarneau en championnat à Fred Aubert, c'était en 2007 à l'époque en CFA2. Et puis on peut parler aussi de l'actualité finalement, on en parlera tout à l'heure parce que ça y est, on a Stéphane Le Mignon avec
voilà,
nous
ça y est.
Pour revenir sur ce derby entre Saint-Brieuc et Concarneau. On l'a dit, un match nul 0-0 qui dans le jeu, dans le spectacle, nous a laissé un petit peu sur notre faim, mais ça permet aux équipes d'avancer un petit peu quand même dans ce championnat. Bonsoir Stéphane.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous revenez donc de ce court déplacement à Saint-Brieuc et ce point du nul gratté, le 9e match nul cette saison pour Concarneau. Est-ce que c'est un bon point d'obtenu sur la pelouse de Saint-Brieuc ?
Oui, parce que Saint-Brieuc est une équipe qui manœuvrait bien chez elle. Hein. Puis point, je crois qu'elle était une des meilleures équipes au classement des matchs joués à domicile. Voilà, on savait que c'est une équipe qui a un bon collectif et nous on sortait d'une défaite un petit peu embêtante contre Orléans. Voilà, il faut être rassuré aussi.
Alors c'était votre 9e match nul de la saison, on le disait. Je crois qu'il n'y a qu'une seule équipe, hein, qui a fait plus dans ce championnat, Le Mans.
Je crois que c'est Le Mans,
ouais, avec 10. Qu'est-ce qu'il vous manque vraiment pour basculer peut-être du bon côté de ce classement, du bon côté de ce championnat, et ne pas se faire peur, en tout cas vraiment lâcher cette zone du bas de tableau?
Oui, depuis le début de saison, c'est vrai qu'on a réussi à rester dans cette première moitié de classement. On aimerait aussi évidemment rester durant la deuxième partie de saison. Voilà, il faut être constant, il faut éviter les erreurs qu'on a faites, notamment le dernier match à la maison. On avait un petit peu pris trop de buts aussi depuis quelques semaines. Donc voilà, si on arrive à rectifier cela, on pourra rester dans cette première partie de classement et puis surtout rester éloigné de la zone de relégation.
Alors vous, Stéphane Le Mignon, vous connaissez très bien ce championnat de national, parce qu'on se souvient évidemment que vous aviez mené Vannes en Ligue 2 en 2008 et même jusqu'en finale de Coupe de la Ligue l'année suivante. Vous avez entraîné aussi Créteil plus récemment, Concarneau maintenant. Est-ce que les mois de février et mars qui arrivent là, qui se profilent, pourraient être décisifs dans ce championnat ?
Bah, c'est un championnat qui est particulier parce qu'avec 18 équipes et 4 descentes, c'est le seul championnat en France où il y a autant de descentes. Donc c'est un championnat qui amène forcément les équipes, même si on a l'impression d'être un petit peu hors d'atteinte de la zone de relégation, mais on se rend compte qu'à 4 ou 5 journées de la fin, on est toujours concerné et qu'une mauvaise série de résultats peut nous amener avec une situation dramatique. Donc j'aurais tendance à dire que même si on fait un championnat moyen durant les périodes de février et mars, il y a toujours, c'est beaucoup, 4 équipes qui descendent. Cette saison, je pense que les équipes qui sont derrière vont prendre plus de points. Parce que ces équipes qui ont du potentiel et de la qualité, on voit que d'ailleurs ces équipes-là commencent à remonter un petit peu au classement et il y a encore Boulogne qui est une grosse équipe qui voulait monter, Lyon qu'on va jouer bientôt. Voilà, c'est des équipes qui vont forcément prendre des points, donc il va falloir continuer à être performant.
Parce que justement, on entend souvent en début de saison des entraîneurs ou des joueurs dire on va essayer de se maintenir le plus tôt possible. Mais est-ce que c'est vraiment possible dans ce championnat de national de se maintenir assez rapidement? Sauf quand on joue
non,
la montée, bien sûr.
Non, ouais, quasiment pas, parce qu'il faudrait avoir 9 ou 10 points d'avance à 3 journées de la fin. Voilà, parce qu'on peut toujours penser qu'on peut faire les 3 derniers matchs. Donc dans ces cas-là, ça me semble très compliqué d'avoir 9 points d'avance ou 10 points d'avance sur le premier relégable. On peut avoir 9 ou 10 points d'avance sur le dernier, sur l'avant-dernier peut-être, mais il y a encore 2 autres équipes qui sont là. Donc forcément, il faut continuer à gagner des points. Là, il faut être performant jusqu'à la fin et on est sauvé des fois à la dernière journée, comme c'est arrivé avec Concarneau depuis quelques temps, mais quelquefois 3 ou 4 journées de la fin, c'est déjà bien.
Stéphane, nous avons votre homologue briochin, Maxime Dornano, qui nous rejoint également en direct sur Radio Bonheur ce soir. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Alors, on va vous poser la même question que celle qu'on a posée à Stéphane Le Mignon en tout début d'interview. Est-ce un bon point que ce 0-0 obtenu face à Concarneau ?
Oui, c'est un bon point dans le sens où sur ce match, on n'a pas été très fringant. Voilà, c'était aussi certainement dû à la qualité de l'adversaire du jour. Voilà, Concarneau, équipe expérimentée du N1. Et puis, bon, j'insiste, nous, c'était forcément pas notre meilleur match de la saison, mais voilà, ça reste un bon point. On revenait d'une défaite à Villefranche. Pour entamer la poule retour, on démarre sur un nul dans un derby en plus, donc c'est on prend.
Vous vous attendiez à ce type de match ? C'est vrai qu'on avait vu le même score à l'aller, peut-être pas tout à fait la même rencontre. Est-ce que vous vous attendiez à cela ?
Bah, écoutez, ça restait un derby. Ces matchs-là sont souvent serrés. Nous, j'insiste, on voulait faire beaucoup mieux, notamment sur le plan offensif. Maintenant, il y avait une équipe en face qui nous a vraiment bien contrariés. Et ça a donné ce match-là.
Alors, je reviens vers Stéphane et sur ce derby de vendredi. En quoi, Stéphane, Saint-Brieuc vous a peut-être surpris sur ce match à Fred Aubert ?
Bah, vous savez, Saint-Brieuc, voilà, on commence à les connaître. On les a joués en match de préparation. On a eu beaucoup de soucis au mois de juillet. On a eu le premier match à Guipériou où ça avait été aussi dans l'ensemble assez compliqué, même s'il y avait eu quelques situations favorables pour nous. Mais voilà, là, on a un peu moins concédé. Donc, on a plutôt bien défendu. Moi, je reproche un peu à l'équipe de ne pas avoir été plus loin dans nos offensives parce qu'il y avait forcément peut-être mieux encore à faire. On les a pas sentis dans un grand jour. Ils ont fait des performances remarquables ces dernières semaines, mais là, on les a sentis un petit peu moins bien. Donc, il y avait peut-être un coup à faire à Fred Aubert vendredi dernier.
Alors, après ce match nul, vous allez recevoir le Sporting Club de Lyon qui est relégable, mais qui relève la tête quand même. Ce sera sans doute une opposition totalement différente du Stade Briochin et peut-être le pire moment pour affronter ce Sporting Club de Lyon.
Ouais, c'est la particularité du championnat et une grande différence avec la Ligue 1 et la Ligue 2 notamment. C'est que des équipes comme Lyon, comme Boulogne, comme j'expliquais tout à l'heure, des équipes avec du gros potentiel. Là, ils ont changé d'entraîneur, mais voilà, c'est des équipes qui ont vraiment des effectifs qui pourraient jouer, enfin des joueurs qui pourraient jouer quasiment dans tous les effectifs du championnat. Donc oui, ça va être très très compliqué. C'est une équipe qui a un peu plus de puissance que Saint-Brieuc. Voilà, c'est un collectif un peu moins fort, même si avec le changement d'entraîneur, voilà, on s'attend évidemment à des modifications.
Stéphane Le Mignon, merci beaucoup. On va pouvoir vous libérer et poursuivre ensuite avec Maxime. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, au revoir.
Merci, bonsoir. Merci. Et on continue cette parenthèse, ou en tout cas ce chapitre national, ouais, avec Maxime Dornano. On revient donc sur le Stade Briochin. Maxime, 2019-2020 et 2020-2021 confondus, vous avez perdu un seul de vos 20 derniers matchs à domicile. C'est quoi la recette ? Qu'est-ce qui fait votre force pour être aussi solide à la maison ?
C'est vrai que c'est une bonne statistique. Maintenant, on dégage pas que de la solidité, c'était surtout un esprit entreprenant à domicile avec la volonté d'aller de l'avant. Voilà, chose qu'on a un peu moins vu face à Concarneau sur le dernier match.
Mais pourtant des fois on peut expliquer le fait qu'une équipe fonctionne bien grâce à son public. Là, qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi performant avec ou sans public à domicile ?
Je sais pas, peut-être que je vous dis, peut-être que notre allant, notre esprit de joueur nous a offert ces bons résultats. Maintenant ça me fait vite basculer sur notre parcours à l'extérieur, parce que justement il est moins prolifique, donc j'embraye sur Laval ce week-end où il faudra qu'on soit plus prolifique à l'extérieur.
Oui, parce qu'on se rendait compte avant le match contre Concarneau que Saint-Brieuc finalement était la co-meilleure équipe à la maison avec Créteil, 18 points, mais la moins performante à l'extérieur avec 3 unités. Est-ce que ce championnat national finalement n'est pas un peu anxiogène quand on voit qu'avec une victoire de Boulogne, si Boulogne venait à gagner son match en retard contre Annecy, Boulogne ou Bourg-en-Bresse ? C'est Bourg-en-Bresse je crois d'ailleurs, qui a un match en retard contre Annecy.
Bourg-en-Bresse, oui.
Bourg-en-Bresse, voilà. Il pourrait y avoir plus qu'un point d'écart avec la zone rouge, alors que pourtant vous réalisez un parcours somme toute honnête.
Bah, de toute façon, chaque saison, ce championnat national 1, il est très serré. Et bon, lorsqu'on prend, nous, notre cas, notre cas de figure. Nous sommes à 22 points, on est clairement à 3 points du 5e, mais aussi à 3 points du premier relégable, donc c'est très compact. Maintenant, notre parcours à domicile nous a offert ce positionnement, mais ce parcours à l'extérieur n'est pas suffisant, où effectivement on a pris que 3 points, donc on sait où on doit hausser le curseur, on sait dans quel domaine on doit travailler, et puis on attaque cette phase retour avec beaucoup d'envie.
Un rapide écran publicitaire, Maxime, et puis on revient tout de suite pour la deuxième partie de l'interview. À tout de suite.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Alors, Paul, ce salon?
Avec la fuite d'eau, toute la peinture est à refaire. Et en plus, on va sûrement m'envoyer un expert et...
Vous savez, chez Groupama, on peut vous proposer d'être immédiatement indemnisé si vous faites les travaux vous-même. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250€ si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Vraiment?
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé et des portes blindées à prix léger?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
À Bressud.
Le bonheur plein sud.
Le bonheur, c'est quand j'ouvre mon abri de piscine à Bressud pour une baignade avec les enfants. À nous, le confort et la sécurité du numéro 1 français. Non. Et comme l'eau est plus chaude, on profite de la piscine du printemps à l'automne. Voilà, c'est ça notre bonheur à Bressud.
À Bressud,
le bonheur plein sud.
Les soldes, c'est dans 2 jours chez Cdiscount pour retrouver nos offres exceptionnelles sur de nombreux produits.
Cdiscount.
Soldes du 20 janvier au 17 février inclus. Voir conditions sur le site.
Dans un monde parfait, il y aurait des remises sur les remises. Ça tombe bien. En ce moment, c'est les doubles remises chez Poltron et Sofa. Profitez de 50% de remise, plus jusqu'à 25% supplémentaire sur tous les canapés en magasin. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique vérifiée, conditions en magasin.
Leclerc.
Les hommes s'en sortent toujours.
Pourquoi tu dis ça?
Mais regarde, du 19 au 30 janvier, pour l'achat d'un paquet de Sun tout en un de 62 tablettes, t'as 50% de réduction immédiate, soit 4,54€ le paquet.
C'est un super prix.
Sauf que du coup, c'est toujours pas les mecs qui font la vaisselle.
Ah ouais, ok, c'est la machine.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc, soit 4,18€ le kilo. Produit irritant et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités, magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Du lapin.
C'est qui le chef qui a fait ça?
Qu'est-ce que c'est bon!
Franchement, super idée.
Délicieux!
Eh oui, voilà ce que vous allez entendre en cuisinant du lapin. Ravioles, burgers ou nem. Le lapin s'invite partout. Le lapin, c'est remarquablement tendre. C'est sain et ça renouvelle le bout de la fourchette. Et en plus, manger du lapin, c'est aussi soutenir nos éleveurs.
Le lapin, faites-vous remarquer et retrouvez des tas d'idées recettes sur lelapinfaitesvousremarquer.fr. Il est remarquable, le patrimoine européen.
Allez, retour des déchaînés du football de magazine en direct jusqu'à 20h30. On continue de parler de Saint-Brieuc en championnat de national.
Oui, alors en championnat de national et puis aussi en Coupe de France, cher Maxime Dornano, on voit que les Ligues 2 vont débuter leur parcours. D'ailleurs, mercredi sur Radio Bonheur, il y aura Guingamp-Caen pour 8e tour. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui va se passer pour les clubs amateurs?
Non, écoutez, on attend les informations. Voilà, on connaît juste notre tirage du 6e tour, mais qui avait été effectué il y a un petit moment déjà. Maintenant, avec la situation sanitaire, le couvre-feu, je vois pas comment Bourg-Blanc, notamment notre adversaire, peut s'entraîner. Donc, je pense que ce sera compliqué que ce match ait lieu dans un futur proche.
Parce qu'on voit, il y a quand même, alors, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner, peut-être une Coupe de France qui ne va se jouer qu'avec des clubs professionnels. Mais du coup, vous, en tant que club de national, vous pourrez aussi vous estimer, vous sentir lésé, parce que vous aussi, vous avez repris et vous continuez vos championnats.
Ouais, complètement. Ils avaient décidé d'une formule. Maintenant, pour la partie amateur, ça me semble compliqué en ce moment. Mais je vous dis, on suit l'actualité, on suit la situation sanitaire et on attend les informations simplement.
Alors un point aussi sur le mercato, parce qu'on est en phase de mercato, et puis surtout on vient d'apprendre, enfin il y a quelques jours maintenant, ce week-end, que le Stade Briochin se séparait de Biram Diaye déjà, qui avait très peu joué, mais surtout du meneur de jeu Johan Lemeauté, qui vient de signer à Cholet, autre club de national. Est-ce que ça va vous pousser à recruter ça aussi, le fait d'avoir perdu un élément clé, c'est le cas de le dire pour le coup avec Johan Lemeauté?
Oui, bah écoutez, oui, effectivement, on perd un joueur important du domaine offensif. Maintenant, oui, effectivement, s'il y a une opportunité avec un recrutement qui pourrait nous amener une plus-value, oui, on le fera. Mais il y a suffisamment de joueurs au club avec de la qualité qui vont aussi avoir une carte à jouer. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence de ce côté-là.
Est-ce que vous avez été surpris de voir Johan Lemeauté quitter comme ça le Stade Briochin?
Oui, parce que ça s'est fait très rapidement et non à la fois, enfin qu'il soit contacté, parce que c'est un joueur assez visible, qui avait souvent les louanges des entraîneurs adverses aussi. Donc voilà, c'est le jeu du foot.
Eh bien, merci beaucoup, Maxime Dornano, d'avoir été sur Radio Bonheur avec nous ce soir pour évoquer toute cette actualité du Stade Briochin, Saint-Brieuc, qui jouera vendredi à Laval, hein, c'est bien ça?
C'est ça.
À Laval, prochain déplacement.
Match aller avait été compliqué, je crois.
Mais justement, c'est la seule défaite de Saint-Brieuc cette saison à domicile, Laval.
Faut se venger.
Et la seule sur les 20 derniers, du coup, c'est on vrai. En parlait il y a un instant. Bah, merci beaucoup, Maxime Dornano.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci,
bonne soirée.
Bonsoir.
Merci et bon courage pour Laval. Merci, bonne soirée.
Merci.
Radio Bonheur, il est 18h57.
Oui, un petit coup d'œil sur l'ensemble des résultats du coup de National, les matchs qui se sont joués donc vendredi soir, un match nul entre Orléans et Créteil de partout, une victoire d'Avranches contre Laval 2-1 avec un but de l'attaquant prêté par Guingamp, Erwin Taha du côté de Laval, il avait ouvert le score, victoire de Villefranche à Cholet, le nouveau club donc de Johan Lemeauté, 2-1, 0-0 entre le Sporting Club de Lyon et 7, 0-0 également entre le Red Star et Boulogne, et puis enfin Quevilly-Rouen, l'actuel deuxième, enfin premier avec provisoirement, qui a battu Le Mans 2-0 avec un but encore du meilleur buteur. Non, il n'a pas marqué d'ailleurs, je trouve qu'il y a le meilleur buteur, Andrew Young. En ce moment se déroule le derby Bastiais. Le Sporting Club de Bastia reçoit le FC Bastia Borgo. 0-0 après 54 minutes de jeu. Puis le match Annecy-Bourg-en-Bresse qui devait se dérouler vendredi a été reporté en raison des intempéries à ce soir, mais il a à nouveau été reporté.
C'est sympa Annecy.
Match.
Un coup d'œil sur le classement, Quevilly qui est donc en tête pour l'instant avec 34 points, Bastia du coup qui revient à un point pour l'instant avec son point du nul, mais qui pourrait donc basculer en tête si Bastia arrive à faire la différence en seconde période. 34 points pour Quevilly, 33 pour Bastia, 30 pour le Red Star qui est 3ème, 27 pour Créteil 4ème, 25 pour Le Mans et Cholet. Il faut descendre à la 10ème place pour voir Concarneau avec 24 points, le Stade Briochin est 12ème avec 22 points, 3 petits points d'avance sur la zone rouge avec Bourg-Perona qui est premier relégable avec 19 points et un match en moins. Boulogne relégable aussi 18 points, le Sporting Lyon 15 points, Annecy 15 points mais avec aussi un match en moins.
Une victoire serait la bienvenue pour les Briochins à Laval le week-end prochain. Une petite pause messieurs les infos, on vous retrouve juste après le journal de 20h.
Si le coucou sonne toutes les heures, c'est que tu écoutes Radio Bonheur.
Radio Bonheur, il est presque 20h.
Bonsoir à tous. Le comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri à l'affiche de Didier, Le goût des autres, on connaît la chanson et plus récemment Le sens de la fête, est décédé à l'âge de 69 ans, c'est ce qu'a annoncé son agent ce lundi. Il s'est éteint des suites d'un cancer. Jean-Pierre Bacri avait fait ses débuts dans les années 80 où il brillait aussi bien sur le grand écran que sur les planches. C'est aussi durant la même période qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa partenaire de création au cinéma et au théâtre et sa compagne pendant plus de 20 ans, Agnès Jaoui. Leur dernier film Place publique était sorti en 2018. Il n'aura pas eu la chance de son compagnon de glisse. Ce lundi, le corps sans vie d'un jeune homme de 26 ans, skieur de randonnée, a été retrouvé par les secours. Dimanche, les deux hommes étaient partis du Honeck à la mi-journée et se trouvaient sur le versant alsacien de ce sommet du massif des Vosges qui culmine à plus de 1300 mètres lorsque la coulée les a emportés. L'alerte a été donnée vers 13h. Si le premier skieur avait pu être retrouvé vivant et sans blessure grave par les secours, le second, originaire de Ventron dans les Vosges, n'avait pu être localisé. Il pourrait être jugé avant la fin de l'année. Le procureur de Besançon a requis ce lundi le renvoi du Chilien Nicolas Zepeda devant la cour d'assises du Doubs pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, étudiante japonaise disparue en 2016 à Besançon. Le procureur tiendra une conférence de presse à ce sujet demain après-midi. C'est un nouvel espoir pour les défenseurs de l'égalité hommes-femmes au travail. Lors d'une audition ce lundi matin avec la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à l'instauration de quotas pour favoriser l'accession des femmes à des postes de direction dans les entreprises françaises. La France doit se positionner comme nation en avance et non comme nation en retard sur ces thématiques. À compétences égales, les femmes sont toujours payées 10% de moins que les hommes. C'est tout simplement révoltant. Fin de citation. L'Élysée a annoncé la visite d'Emmanuel Macron à Brest dans le Finistère ce mardi. Après l'armée de terre en janvier 2019 à Toulouse et l'armée de l'air l'an dernier à Orléans, c'est au tour de la marine d'accueillir le chef de l'État pour la traditionnelle cérémonie de vœux aux armées qui aura donc lieu dans le Finistère en Bretagne demain.
Vos activités sur Radio Bonheur.
Dans le Finistère, pour diffuser vos activités, vos annonces associatives, contactez Radio Bonheur au 02 96 63 00 63 tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 18h. 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur.
La dernière demi-heure du magazine des déchaînés du football. La dernière demi-heure pour parler de la Ligue 2 et forcément de Guingamp. Guingamp qui ne nous a pas gâtés ce week-end. Guingamp qui jouait ce week-end en recevant Nancy, autre mal classé de ce championnat de Ligue 2. Ça n'a pas été fameux du tout. Un match assez indigeste, somme toute.
Oui, pas de défaite, il y a quand même un point, 0-0. Mais alors, un match où on s'est sérieusement ennuyé. On écoutera d'ailleurs Mécha Bazdarević dans un instant qui lui aussi.
On n'a pas de résumé.
S'est ennuyé, mais il n'y a pas de résumé parce qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu quoi ? Une occasion pour Nancy en fin de première mi-temps.
C'est terrible ça.
Une demi pour Guingamp. Et bon, l'expulsion en toute fin de match d'un joueur nancéen. Mais c'est tout, il ne s'est rien passé. Dans
il aura fallu attendre la 90e quand même pour voir un tir cadré des Guingampais. Ouais, ça nous ramène à l'année de la descente quand Guingamp était en Ligue 1. Où
parce qu'on prenait des buts.
Ouais, mais il fallait souvent attendre la 90e. Je crois que même qu'on a eu un match sans aucun tir cadré. Je crois que c'est arrivé une fois ou deux.
Oh, oui.
C'est arrivé une fois ou deux.
Et moi, cette saison-là, elle me rappelle terriblement la saison 2009-2010, celle qui avait vu Guingamp descendre en national. Hein.
Si en plus on a un Guingamp Paris en coupe.
Oui, en plus, il y avait eu Guingamp Paris en coupe en plus cette année-là, mais où Guingamp finalement gagne très peu, ne perd pas forcément beaucoup, n'est jamais non plus dans la zone rouge, mais par contre fait beaucoup de nuls. Parce que l'année-là, finalement, Guingamp a fait quelques matchs un peu plus dans la zone rouge quand même, hein, quelques semaines, mais sans être non plus largué, jamais décroché, jamais dernier, vraiment, parce que c'était Bastia qui avait été un moment largué dans cette saison-là. Ouais. Guingamp, jamais, toujours allé en position de se relancer, mais qui ne le faisait jamais, ou jamais assez en tout cas, pour vraiment s'extirper de...
Il y avait eu que 13 défaites en 38 matchs hein, l'année de la descente.
C'est ça,
16 matchs nuls pour les Guingampais qui étaient descendus avec, là on a les chiffres, hein, je crois que c'était la 6ème défense de mémoire.
6ème, ouais.
Donc,
Un record de points, je crois, à l'époque, pour un relégué.
43.
Parce qu'à l'époque, le 18ème descendait, il n'y avait pas de barrage pour le 18ème, on le rappelle.
Alors là, la chance de Guingamp, si on peut dire que c'est une chance, c'est qu'il y a quand même...
Le 18ème jouera les barrages. Déjà,
surtout que les deux qui sont sous la 18ème place commencent à être de plus en plus loin hein, du maintien. Parce que Pau est à 14 points, Châteauroux 13, ils sont à 5 et 6 points du barragiste. Guingamp a 2 points d'avance sur le barragiste, donc Guingamp a 7 et 8 points d'avance sur eux. Mais surtout, ce qui est très décevant sur ce match, Gaëtan, est très vite, très vite, on s'en est rendu compte dans cette rencontre. Au bout de 10 minutes, on s'est dit, ça y est, on a retrouvé le mauvais Guingamp.
Oui, oui, parce que pas de rythme, pas de un Guingamp un peu attentiste. Guingamp n'a jamais pris le match finalement à son compte contre des Nancyens qui n'en ont pas fait beaucoup plus. Hein.
Oh,
c'était pas non plus fameux loin de là du côté de Nancy. Mais Guingamp à la maison, après sa victoire à Châteauroux qui était censée un petit peu rassurer tout le monde, se devait, je pense,
contre une modeste équipe, somme toute.
Hein,
ouais, ouais. Contre une équipe très très modeste. Hein, on est voilà Nancy, c'est à peine mieux. Ouais, c'est à peine mieux que Pau par exemple ou que Châteauroux. C'est quasiment du même niveau. Donc à domicile, on attendait beaucoup mieux.
Et ce qui est incroyable, et heureusement, on a un petit peu plus de statistiques maintenant en Ligue 2 à notre disposition. On en a parlé après la rencontre, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui a été incroyable et assez affolant sur cette rencontre, c'est la différence de kilomètres parcourus par les deux équipes. Nancy a couru 111 kilomètres. L'intégralité des joueurs de Nancy, 111 kilomètres. Guingamp est à 100 kilomètres. Il y a exactement 10,4 km d'écart entre les deux équipes. Pour simplifier, la moyenne pour un joueur sur un match, alors les sources
un peu moins
diffèrent.
De 10 km en général.
C'est entre 7 et 11.
Ça veut dire 9 bons kilomètres en tout cas.
Il y a 9 bons kilomètres. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un joueur d'écart. Parce qu'en plus la possession est égale. Donc ça veut dire que les deux équipes ont eu le ballon à peu près le même nombre de temps, minutes et de temps. Donc c'est comme si en avant avait joué tout le match à 10 contre 11.
C'est avec des joueurs statiques en bonne partie.
Il y a une action, je crois qu'on en a parlé pendant le match, c'est une action de Poati qui était le seul à bouger. Il est parti du côté gauche dans son camp pour
arriver
du rond central. Vous regardez l'action, je l'ai mise sur mon compte Twitter pour ceux qui veulent aller regarder, @PierreHD. Vous regardez l'action, il y a Poati qui accélère, il y a 5 joueurs qui peuvent potentiellement recevoir le ballon. Au mieux, ils trottinent.
Ouais,
c'est affolant.
Alors vous verrez, vous entendrez plutôt que Mesha Bazdarevic ne s'en est pas rendu compte que Guingamp avait moins couru que Nancy sur ce match. Je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième son que je l'ai mis. En tout cas, on va écouter le premier pour l'instant. Un Bazdarevic qui n'a pas trouvé son équipe au niveau face à Nancy.
Oui, parfois j'ai l'impression qu'on n'a pas joué le match. On n'a pas eu de raison d'être fébrile, malgré qu'on savait qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut aller construire le match. Il faut aller chercher, il faut bien démarrer le match. Il manquait de l'aspect technique aussi, beaucoup de choses. On a raté beaucoup de passes. Dans cette animation offensive, il manquait beaucoup de choses. Voilà, reste, il y a beaucoup d'énergie dépensée, on a couru beaucoup, mais je pense que tel de football, proprement, on n'était pas à mon niveau.
Ouais, il a pas vu que ces joueurs avaient moins couru.
On a couru beaucoup, a-t-il dit. C'était bien dans ce premier son. Eh ben beaucoup, mais
pourtant,
beaucoup moins
les
que les Nancyens.
Ou alors on ne sait pas les analyser, mais comme généralement, bon, il peut y avoir des fois 3-4 km d'écart entre deux équipes. C'est pas très important.
3-4, voilà, ça peut être la moyenne, mais au-delà, ça commence à faire beaucoup. Hein.
10,4.
Plus de 10
incroyable.
Km, c'est
on
beaucoup.
On se souvient que ça avait été 12 à Chambly.
Ah ouais.
Il me semble, oui. À la mi-temps, il y avait 5 ou 6 km d'écart à Chambly, le fameux 3-0.
12, entre 10 et 12 à la fin, et encore.
Qui ne percute pas, voilà.
Non, et qui bizarrement, retombe dans ses travers parce qu'on avait eu contre Amiens. Alors, certes, Châteauroux, on peut dire, ouais, Châteauroux, c'est quand même très faible. Bon, Guingamp a gagné, d'accord. Amiens, c'est quand même au-dessus de Châteauroux, au-dessus de Nancy aussi. Et on avait vu notamment une première mi-temps bien plus consistante.
Il y avait des courses. Il y avait. Quand souvent, on dit que c'est le joueur qui n'a pas le ballon qui décide, c'est le joueur par son appel, par son démarquage, fait la différence. Là, je repense encore à l'action de Poitiers, mais il y en a d'autres dans ce match.
Ouais, ouais, ouais.
Il n'y avait pas de solution. Souvent, je crois qu'il y a une action de Livolant aussi qui arrive tout seul à un moment à droite, et les autres sont, et ça on l'a souvent dit aussi, ils sont 30 mètres derrière.
C'est celle-là que j'ai en tête surtout, ouais.
Et il n'y a pas de cohérence.
Et Livolant qui avait d'ailleurs obtenu ce qu'il pouvait de mieux, je crois que c'était un coup franc à ce moment-là, qu'il avait réussi à gratter, mais il n'y avait absolument rien qui accompagnait.
À Châteauroux, ça venait tout seul, il y avait des vagues, c'était très plaisant.
Et puis même la première mi-temps, notamment contre Amiens, où il y avait beaucoup de dédoublements, des joueurs qui accompagnaient les mouvements offensifs, qui refaisaient les efforts aussi de repli derrière. Là, les efforts de repli, il n'y avait pas besoin de les faire parce qu'ils étaient déjà repliés. En bonne partie pour certains, en tout cas dans ce match. Mesha Bazdarevic très déçu de la prestation de ses joueurs et qui parle même de plus mauvais match depuis son arrivée, c'est dire.
Moi j'attendais quand même un peu plus justement dans cette ces domaines-là. Plus de vivacité, beaucoup d'explosivité, beaucoup de mouvements. J'ai un petit peu de mal de le voir à cet état accessoire. Et après, il faut vite passer à autre chose. Il faut vite se projeter pour ce qui arrive et puis analyser. Parce que c'est quand même... c'était pas exceptionnel ce soir. Mais je pense que ce soir, c'était un des plus mauvais matchs depuis que je suis arrivé. Parce que même quand on perdait, on a produit des bons footballs et puis il y a des matchs où on n'a pas gagné, mais on avait d'autres choses.
Ouais, on n'entendait pas bien, mais il nous a dit en tout cas que ouais. C'était un des plus mauvais matchs de Guingamp à domicile.
C'est ça, et pourtant il y avait eu le Guingamp-Sochaux.
Je ne pensais pas que le Guingamp-Sochaux était, je ne sais pas si ça se dit, surpassable. Si on pouvait dépasser ce Guingamp-Sochaux. Et mon petit Gaëtan, je suis désolé. On l'a fait, on y était. Incroyable.
On l'a fait, espérons ne pas revivre le même genre de match contre Caen en Coupe de France mercredi soir. Mais c'est vrai
que
c'est dans deux jours.
Ouais, là, déjà, moins, c'est la meilleure nouvelle de la soirée et de la semaine.
C'est ça. Au moins, on sera sûr qu'il y aura un vainqueur à la fin de cette rencontre. On le disait en préambule de ce chapitre guingampais, des rouges et noirs attentistes, des rouges et noirs qui ont. N'ont jamais pris la mesure de ce match et Baptiste Roux revient justement sur le fait que son équipe était un petit peu passive.
Je trouvais qu'on avait tendance à reculer au début du match alors que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. On aurait dû aller les chercher plus haut. Ils auraient fait des erreurs techniques je pense et on aurait pu se créer des situations. C'est ce qui nous a mis dedans en première période, on n'a pas eu l'occasion quoi. Le point positif c'est qu'on ne prend pas de but, donc ça c'est bien. Et qu'on continue aussi notre série d'invincibilité en 2021, même si voilà, il y a beaucoup de choses à corriger.
Heureusement, il aurait pu manquer que ça, que les Guingampais prennent un but dans ce match-là. Mais ça leur pendait au nez en même temps.
Ouais, alors c'est vrai que c'est quand même un point important à souligner de ne pas prendre de but parce que ça faisait 9 matchs que ça n'était plus arrivé. En championnat, le dernier clean sheet, c'était lors de la 10e journée, 1-0-0 encore, à Clermont. Ce jour-là, depuis, Guingamp avait toujours encaissé au moins un but sur les 9 matchs suivants.
Ah, mais il marquait un peu plus.
Mais bon. Toujours,
l'équilibre, on le disait, Bazdarevic, il a toujours pas trouvé cet équilibre-là. Non. Quand Guingamp prend pas de but, il en marque pas. Quand il en marque, il en prend. C'est pas très juste.
Alors on a ciblé quelques manques, le manque de mobilité, de rythme, d'entreprise de la part des joueurs. Est-ce que les joueurs aussi, eux, ont ressenti ces mêmes lacunes? Écoutons à nouveau Baptiste Roux, le jeune milieu de terrain guingampais.
Bah à la mi-temps, les consignes, c'était de bien rester en place, parce que c'était un match entre guillemets un peu bizarre, fermé quoi. Donc bien rester en place pour pas ouvrir d'espace et pour pas prendre de but. Voilà, après on a eu du mal à garder les ballons devant. Alors ce qu'on avait bien fait le dernier match, on n'avait pas ce point d'appui devant pour garder les ballons et pour jouer côté. Ouais, bah, comme j'ai dit, il manquait de la mobilité, de l'intensité, un peu d'envie, des courses. Voilà, c'est ce qu'on avait bien fait les autres matchs. Donc voilà, je sais pas pourquoi. On va dire qu'il y a des soirées comme ça.
Là, par contre, lui, il a cerné les manques.
Clairement.
Quand il dit que ça manque de course, d'intensité, d'envie, peut-être qu'il s'en est mieux rendu compte sur le terrain, mais oui, c'était évident quand on le regardait à la télé, peut-être évident quand vous étiez en tribune en haut,
oui.
Mais lui, il l'a ressenti sur le terrain.
Également, c'est qu'on n'a pas mal vu que notre analyse n'est pas manquée, pour le coup, puisque Baptiste Roux, effectivement, l'un des acteurs de ce match, est sans doute l'un des seuls peut-être à surnager un petit peu, on va dire, à faire le boulot, hein, parce qu'il a été quand même au rendez-vous, surtout lui, qui a peu d'expérience, c'était seulement son, je crois, 15e match de Ligue 2, donc voilà, c'est qu'il s'en rende compte aussi, ça prouve que effectivement Guingamp est passé à côté de son match. Malgré tout, Guingamp reste invaincu en 2021. C'est la maigre satisfaction du week-end.
Trois matchs. C'est comme Domenech qui est invaincu à Nantes.
Aucune défaite,
hein.
C'est ça. C'est la maigre satisfaction. Et disons que ça peut-être enfin déboucher sur une série positive parce que s'il y a une victoire qui suit, bon, ce sera pas si mal en termes comptables.
Mais la lecture sera tout autre. Et des fois, dans des séries, si vous faites. Alors, bon, on en est loin, hein, mais si vous faites 10 matchs sans défaite. Il y a peut-être effectivement un ou deux 0-0 qui traînent et qui sont pas folichons.
Ouais.
avoir encore non, une fois.
Mais là, c'est dans la forme, quoi. Une fois de plus, et c'est récurrent, c'est ça le problème. C'est que Guingamp voilà, ne redresse pas la tête.
Il y aurait que l'année 2021, on aurait dit, bon, c'est
parce qu'à la limite, là, Guingamp s'en sort bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est avec un match aussi mauvais, s'ils avaient perdu, s'ils avaient eu surtout un adversaire peut-être au niveau, Guingamp perdait à domicile. Donc, il ne faut pas se réjouir, hein, je pense, de cette série de non-défaites pour Guingamp. Attention, le prochain match sera sans conséquence, c'est un match de Coupe de France, une Coupe de France de toute façon qui sera difficile de gagner pour les Guingampais parce qu'on connaît déjà l'adversaire après Caen, ça sera le Paris Saint-Germain.
Ça serait génial.
Donc de toute façon, pas beaucoup d'enjeux dans ce match, si ce n'est se redonner un peu de confiance contre Caen et ce sera à domicile, donc dans deux jours,
mercredi soir. Mercredi à 21h. Le match contre Caen.
En tout cas, ce ne sont pas des Guingampais rassurants, c'est tout ce
qu'on
peut dire.
Non, c'est pour ça qu'on avait dit après le match à Châteauroux, lundi dans le magazine, et même juste avant le match contre Nancy, que ça restait fragile. Même si Guingamp avait gagné, ça fait une victoire sur les 13 derniers matchs, c'est évidemment très fragile.
Et ça reste fragile après ce match.
Oui, et on disait aussi que le mois de janvier allait déterminer le temps de souffrance de Guingamp cette saison. On n'a pas encore la réponse là, par rapport au maintien. Ils n'ont pas réussi franchement à se mettre à l'abri. Donc voilà, maintenant espérons que la coupe fasse repartir un petit peu tout le monde de bon pied.
Une dernière réaction, celle de Mecha Bazdarevic à nouveau, avant de basculer sur un nouveau Guingamp, mais les féminines dans un second temps.
C'est très positif. Maintenant il faut chercher aussi des performances au contenu qui est les meilleures. Il faut qu'il y ait des poids dans cette jeu offensif, dans cette équipe. Il y a quand même des qualités. Surtout, il ne faut pas jouer avec peur de l'avant, parce que sinon, on va pas y arriver.
Et pas jouer avec la peur, parce que sinon, effectivement, Guingamp n'y arrivera pas.
Il a l'air un peu démoralisé sur ce coup-là.
Oui, c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu en conférence de presse. Quand il s'est assis, il y a eu un petit silence de, je sais pas, peut-être 30 secondes où il a dit...
Allez.
Oh, c'était pas terrible. Hein. C'était pas exactement les mots, mais c'était ça. C'était triste.
Ça.
C'était
pas terrible. Bah, pas une bonne soirée.
C'était pas une bonne soirée. C'était beaucoup mieux en revanche la veille pour les féminines de Guingamp.
Alors juste un petit mot sur les l'équipe masculine, sur les Guingampais. Donc prochain match, on l'a dit, mercredi prochain, ce sera la Coupe de France. Mais un petit mot aussi sur le championnat, sur le prochain match des Guingampais le week-end prochain.
Le Havre.
Match
au
Havre, Havre. Qui n'est pas bien non plus.
Non, on est juste derrière du côté de Guingamp. Hein. S'il y a une victoire, je crois que Guingamp passe devant. D'ailleurs,
ça va mal au Havre et ce serait.
Qui a été chercher un point à Amiens ce week-end.
Ouais, là, ce serait vraiment une bonne performance que de faire 3 points au Havre ou déjà un match nul. On va voir, mais le Havre, ça semble déjà plus coriace que Pau, Châteauroux ou que Nancy.
Oui, bah, c'était d'ailleurs le premier adversaire de Mecha Bazdarevic lors de son arrivée, une défaite 3.
Le meilleur match.
À Roudourou et portant dans le contenu sans doute le meilleur match, le plus attrayant. En tout cas, les féminines, on l'a dit, elles ont gagné. C'était vendredi soir, 4-1 contre Montpellier. Une page de pub et on aura tout de suite avec nous Faustine Robert.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Le bonheur, me baigner dans ma piscine quand il fait froid dehors.
Les enfants, allez, on fait coucou aux voisins dans leur doudoune.
Avec notre abri de piscine Abri Sud, la température est toujours optimale. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Mercedes-Benz.
Entrez, prenez place, vous avez 4 heures.
Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes? Surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installé confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée.
Dans un monde parfait, il y aurait des remises sur les remises. Ça tombe bien. En ce moment, c'est les doubles remises chez Poltron et Sofa. Profitez de 50% de remise, plus jusqu'à 25% supplémentaires sur tous les canapés en magasin. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique vérifiée, conditions en magasin.
Suite et fin de ce magazine des déchaînés du football, parce qu'il est déjà 20h20, on parle toujours de Guingamp, oui. Gaëtan, mais des féminines à présent.
Oui, oui, avec Faustine Robert hein, qui sera avec nous dans un petit instant, la meilleure buteuse des Rouges et Noirs, puisqu'elle compte déjà 8 réalisations au compteur. Elle a marqué vendredi lors du succès 4-1 face à Montpellier, des Guingampaises qui se sont mis très vite sur les bons rails, puisque dès la 14e minute de jeu, Alison Penigel a ouvert le score, Margot Lemuel juste avant la pause 2-0, Louise Fleury et Faustine Robert en deuxième mi-temps 4-0 et puis Peterman en fin de match a réduit l'écart en faveur de Montpellier. Faustine Robert est avec nous pour revenir sur ce match entre Guingamp et Montpellier. Bonsoir Faustine.
Bonsoir.
Alors vous venez de réaliser un réel exploit en battant Montpellier vendredi soir.
Oui, c'est vrai, ça me tenait à cœur de faire quelque chose et ben c'est vrai que voilà, la victoire nous a fait du bien et je pense qu'elle était bien méritée au fait de notre prestation.
Vous vous êtes aussi rendu le match assez facile en marquant très rapidement finalement.
Oui, c'est vrai que on a marqué assez rapidement. Alison elle est passée de devant la défense et c'est vrai qu'elle nous a un peu délivré parce que ben c'est vrai que c'est toujours difficile de jouer face à des équipes de ce niveau. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien. Et puis bah, derrière, Margot vient un peu mettre le couteau dans la plaie. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien. Et revenir à la mi-temps avec 2-0, c'était, je pense, personne n'aurait mis une pièce là-dessus. Et c'est vrai que nous, ça nous a fait énormément de bien. Et on est revenu, entre guillemets, dans nos têtes. On savait qu'on était intouchables. Et pour nous, dans nos têtes, on savait qu'on revenait en deuxième mi-temps. Mais le match, on allait le gagner. Pour nous, c'était certain.
Alors, en tant qu'ancienne Montpellieraine, on l'entend un petit peu à votre accent, d'ailleurs, Faustine. Marqué ce week-end contre votre ancien club, ça devait avoir une saveur particulière.
Oui, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Bah, déjà, ça fait toujours plaisir de marquer, mais c'est vrai que contre son ancien club, c'est toujours quelque chose de bien et de particulier, ça a une saveur particulière. Et puis bah, là, en plus, bah, voilà, c'était un peu, on va dire, la récompense de notre match. On était bien, on a fait, une super prestation et c'est vrai que les attaquants marquent, bah, c'était une récompense pour nous.
Alors c'est la première fois de la saison que vous battez une des quatre équipes de tête, le premier exploit. Donc que peut-il cet exploit vous permettre d'espérer sur la phase retour qui vient de commencer ?
Ben, nous espérer déjà de faire une meilleure deuxième partie de saison, parce que la première c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et après, comme voilà, un bel exploit, ça serait de refaire un peu la même chose face au PSG.
On voit au classement que vous avez gagné 3 de vos 4 derniers matchs et puis on remarque aussi que sur vos 12 matchs, il y a 6 défaites, 5 victoires et un seul match nul. Comment vous expliquez que c'est un petit peu, pour résumer, tout ou rien avec ce Guingamp cette saison?
Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est nous, c'est notre groupe, on est comme ça, c'est tout ou rien, le coach nous le dit souvent. Et je sais pas, je pourrais pas expliquer ça, mais peut-être la jeunesse. Parce que c'est vrai que voilà, on a une équipe très jeune et peut-être que parfois on a eu tendance à baisser les bras un peu trop facilement. Mais je pense que là on est revenu avec de belles ambitions et je pense qu'on a envie de montrer qui on est vraiment dans cette deuxième partie de saison et en tout cas je l'espère.
Alors justement dans cette deuxième partie de saison, là vous êtes 7e, vous avez 10 points d'avance maintenant sur ICI qui est le premier relégable. Comment dans le championnat de France féminin que vous avez l'habitude de fréquenter Faustine depuis quelques années, Comment on se motive lorsqu'on est maintenu et qu'on sait que normalement on ne peut pas aller chercher des places européennes? Où est le défi?
Ben, le défi, je pense, c'est de rester invaincu le plus possible. C'est d'aller chercher chaque week-end une victoire pour se rapprocher justement de l'Europe. Même si, comme vous l'avez dit, si on prend l'idée qu'on ne peut pas l'atteindre, c'est toujours mieux d'être au plus près. Et puis après, je pense que dans la tête de chacune, c'est aussi de continuer à travailler et pour préparer les années à suivre. Après chacune, je pense la défense, la gardienne, ça va être plus son objectif de prendre le moins de buts possible et d'être efficace. Et puis personnellement pour les attaquants, je pense que ça va être de mettre le maximum de buts ou de passes, d'être décisif chaque match pour continuer à travailler et à progresser pour les années à suivre.
Eh bien justement, Faustine, personnellement, vous avez déjà marqué 8 buts en 12 matchs. Il y a 2 ans, Adélie Fourré, une excentrée, était la meilleure buteuse. L'année dernière, Louise Fleury, une autre excentrée, était la co-meilleure buteuse. Et cette année, vous, une autre, une troisième excentrée, est la meilleure buteuse d'en avant. Comment expliquer que les joueuses de côté soient aussi décisives, et notamment en termes de buts?
Franchement, je sais pas, je pourrais pas vous répondre. Personnellement, moi, ça fait plusieurs années que je me bats, que j'essaye de, voilà, d'être performante. Après, j'ai eu des années un peu plus difficiles avec les blessures ou alors avec plutôt des soucis familiaux qui m'ont mis un peu en difficulté. Mais je pense que je suis née d'une famille et d'une belle famille de battants et de ne rien lâcher. Et je pense que, voilà, je me suis servi de tout ce qui a pu m'arriver pour me battre, me donner la force de réussir et je pense que ben voilà, c'est une récompense aussi à la vie, tout ce qui m'arrive en ce moment, et surtout je veux continuer à vivre ce que je vis et si je peux continuer à marquer encore et encore, je refuserai pas, et puis si je peux être décisif pour mon équipe, avec grand plaisir.
Alors vous avez déjà réalisé là, à mi-chemin dans cette saison, votre meilleure saison en termes de buts, 8 réalisations au compteur. Est-ce qu'avec de telles statistiques, vous pensez à l'Euro 2021 avec les Bleus?
Ça serait mentir de ne pas y penser, parce que je pense que pour toute joueuse, c'est un rêve d'être à chaque fois être appelée en équipe de France. Maintenant, comme je le dis dans tous les interviews, j'y pense, je l'espère, je le souhaite, mais maintenant, je ne me prends pas du tout la tête avec ça. C'est pas une obsession. Je continue, comme je vous ai dit, à travailler. Je donne ce que j'ai à donner pour le club. Je m'arrache pour Guingamp. Et puis, si je dois être récompensée, tant mieux. Ça récompensera aussi le club. Et si je dois pas l'être, c'est comme ça. C'est le football. Je continuerai à travailler. C'est pas ça qui va me faire baisser les bras.
Eh bien, pour l'instant, en tout cas, ça vous sourit, hein, Faustine, avec ses 8 buts, avec cette victoire 4-1 donc contre Montpellier vendredi soir. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions ce soir, Faustine.
Merci à vous, c'est gentil.
Merci,
bonne soirée.
Bonsoir.
Merci.
Radio Bonheur, 19h20...
20h.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit, 19h, 20h26, presque 27, c'est bientôt la fin de ce magazine des déchets du football. Un petit mot pour terminer.
Oui, sur le national, puisqu'on l'a dit, hein, le Sporting Club de Bastia joue en ce moment contre Bastia Borgo. Il y avait 0-0 tout à l'heure quand on était avec
les... Le match a commencé à quelle heure?
C'était à 18h45.
Ah ouais, donc c'est presque fini. Là.
Exactement, il reste 7 minutes dans le temps réglementaire et la décision est faite puisque le Sporting mène 3-0 face à Bastia Borgo. Désormais, le Sporting Club de Bastia qui repasse en tête de ce championnat de national.
Prochain rendez-vous avec les déchaînés du football demain matin à 8h40. On vous retrouve pour vos différentes rubriques, notamment pour Guingamp sur nos émetteurs costa-armoricains. Également, nouvelle rubrique demain matin à 8h40 pour nos auditeurs du Morbihan avec Lorient et pour nos auditeurs finistériens avec la rubrique qui concernera le Stade Brestois 29. Prochain rendez-vous avec les déchaînés du football. Prochain match samedi soir, on l'a dit, donc avec la Coupe de France, avec la réception du Stade Malherbe de Caen en direct sur Radio Bonheur. Match à 21h.
Hein. Exactement.
21h, donc prise d'antenne vers 20h30 pour suivre cette Coupe de France. Et puis le week-end prochain, les Guingampais se déplaceront au Havre. Ouais. Ce sera samedi soir là.
Oui, à 19h cette fois.
Et puis il y aura deux matchs de Ligue 1. Alors pour Lorient, pas sûr. Le match avec une réception, un déplacement à Nîmes, ouais. Déplacement décisif encore une fois.
Encore.
Mais bon, pas sûr du tout. Et les Brestois qui se déplaceront
à Reims.
Pour
ce match, donc essayer de rebondir donc après la série dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, mais pas de crainte.
Pas d'inquiétude.
Merci messieurs.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Bonsoir Sébastien, qui s'occupait de la vidéo, des images sur la page Facebook des déchaînés du football.
Merci Sébastien.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
À bientôt, à demain.
Au revoir.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3. À Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.
Lumière antidouleur, c'est Radio Bonheur.
Radio Bonheur. Radio Bonheur, 100% chanson.